Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Ghost Recon Wildlands, de Stories Untold, et puis on refera un petit tour dans les années, à la fin des années 70, avec la compilation Atari Flashback Classics volume 1 et 2 qui sont disponibles en boîte. En boîte, c'est quand même dingue. Et en téléchargement sur les différents stores. Voilà, et le com des com, Monsieur Fall, vous connaissez le reste du programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro, bonjour Joël.
Bonjour.
Et Patrick Hélio, bonjour.
Bonjour
Patrick.
Erwan.
On commence avec toi Joël, avec un départ de l'industrie ou en tout cas d'un des plus gros studios au monde, Naughty Dog.
Voilà, un départ, voilà, c'est un monsieur qui nous annonce, alors pas sa retraite,
il annonce son retirement.
Alors, je doute un peu qu'il va prendre sa retraite ce jeune homme. Il s'agit de Christophe Balestra, qui est voilà, le français donc, qui est parti, donc, dans les bureaux à Santa Monica. Et qui avait voilà, accompagné en fait, Naughty Dogs pendant à peu près une dizaine d'années. Et là, il y a le 8 mars, il nous a annoncé sur un post de blog, il nous a annoncé son départ et qu'il allait voilà, partir pour des ambitions, pour des projets personnels et pour satisfaire d'autres ambitions. Voilà, donc c'est un peu une petite période qui se ferme chez Naughty Dog, avec l'Uncharted, avec
C'est Balestra, en fait, qui a fait la transition de l'époque Jack and Daxter, Crash Bandicoot, qui était un peu l'âge 1 de Naughty Dog, pour passer à Uncharted, Last of Us, et les gros blockbusters de l'ère Sony.
Blockbusters. Ouais. Alors, The Last of Us 2, qui, malgré le départ de Balestra, va quand même continuer.
Il y a d'autres gens très très talentueux.
Voilà.
C'est
vrai que c'est un peu la figure de proue du studio.
Enfin, c'est souvent lui.
Et c'était un Frenchie.
Fort sympathique, en plus, voilà. Voilà. Donc voilà, bon vent, et puis je pense qu'on va le retrouver sans doute dans d'autres
attitudes.
D'autres studios, d'autres
quelque part. Oui, quelque part, on le retrouvera quelque part. Patrick,
oui, alors un peu
Xbox
d'actu,
qui essaye quand même.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de PlayStation avec Horizon.
Des autres. On parle beaucoup de
Zelda, chez Nintendo, il se passe beaucoup de choses. Oui. Chez Xbox, c'est un peu plus calme en ce moment. Alors, on a quand même eu une annonce assez intéressante, je trouve, il y a quelques jours maintenant, chez Microsoft, qui annonce un Xbox Game Pass. Alors, c'est plutôt intéressant, puisqu'en fait, ça va être une formule à la Netflix, en fait, de location de jeux, en fait, avec un forfait mensuel. Donc, c'est annoncé à 9,99€ par mois. Et ça va permettre, une fois qu'on va souscrire donc, à cet abonnement mensuel, de profiter d'une centaine de jeux Xbox One et Xbox 360, qu'on pourra jouer à volonté, comme ça, comme sur Netflix, où on prend son abonnement, on peut regarder des films, des séries, etc. Ça va être en phase de test, là, je crois, éminemment sous peu. Ça serait, a priori, lancé au printemps, donc pour tous les abonnés Gold ou pas Gold, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour les abonnés payants au Xbox Live, mais ça serait pour tous. Alors, on a déjà une petite liste de jeux qui seront introduits dans l'offre. On parle de Halo 5, de Mad Max, de NBA 2K16, Lego Batman, et puis le Gears of War Remaster. C'est-à-dire que ce n'est pas des jeux tout récents, ce n'est pas des jeux qui viennent de sortir en fin d'année, c'est des jeux qui ont un an à peu près. Mais voilà, si on a une centaine de jeux, ça donne quand même une base un catalogue de jeux comme ça à disposition, sachant que Xbox dit donc qu'on aura une centaine de jeux, mais que ça va tourner, comme sur Netflix. Encore une fois, Netflix, on compare souvent ça au service où on tourne.
On n'est pas sur des jeux en streaming.
Alors exactement. Le grand intérêt, c'est qu'on n'est pas sur du stream comme on peut l'avoir sur le PlayStation Now, par exemple, de Sony. C'est que là, on aurait des jeux qui se téléchargent sur la console en local et qu'on peut embarquer en week-end. Si on n'a pas de connexion internet, on prend la console, on pourra a priori quand même y jouer. En revanche, il y aura ce système de, évidemment, pour vérifier qu'on est bien toujours abonné à cette solution, à cet abonnement, une vérification tous les 30 jours, je crois, vérifier qu'on est bien connecté, qu'on est toujours abonné à ce système. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. A priori, ce qui a été dit, je crois, par le responsable Xbox, c'est donc Phil Spencer, qui disait qu'il n'écartait pas l'idée de contenu exclusif comme on l'a sur Netflix, qui produit des séries télé, qui produit des films.
Je pense qu'il n'écarte pas l'idée, mais de la suivre...
Pourquoi c'est... pas, en tout cas, c'est une porte qui est ouverte. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je pense que voilà, pour une dizaine d'euros, d'avoir comme ça un catalogue de jeux qui va bouger, c'est-à-dire avec une offre qui va tourner a priori tous les mois,
mais en même temps,
ça peut être intéressant.
Moi, je regarde le PSN, le PlayStation Plus. Sur le PlayStation Plus, alors c'est des plus petits jeux, certes, mais on a quand même deux jeux par mois gratuits qu'on garde après, donc qui s'accumulent.
Après, c'est pas du tout la même formule. Là, tu parles des jeux qui sont gratuits, entre guillemets, tous les mois parce que tu as l'abonnement pour jouer en ligne.
Ouais.
Là, on est vraiment sur une formule d'accès à des jeux, des jeux que tu vas jouer en solo. Enfin,
des jeux
qui étaient full price auparavant. Voilà, à voir, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que l'idée d'un Netflix comme ça du jeu vidéo peut être intéressante. Ouais.
Est-ce que ça va encourager le binge gaming?
Pourquoi pas? Mais ça peut permettre de toucher un petit peu à tout, d'essayer un jeu, et pourquoi pas de décider de l'acheter de façon après.
Ça me laisse un petit peu perplexe.
Ça me laisse perplexe, surtout sur le côté un abonnement à 10 euros par mois ou à 20 pour avoir des jeux récents, peut-être pas tous, mais avoir les jeux Day One.
Oui, tous les classiques, quoi, a priori.
Pourquoi
ça va être des
pas, pourquoi pas? Mais alors des jeux qui ont un an et demi, qui sont déjà. J'ai un doute.
Effectivement, la production de contenu spécifique pourrait être un déclencheur. Après, il faut les moyens. Il faut qu'il y ait assez d'abonnés à cette formule pour que ce soit valable.
C'est pas évident. Gros point d'interrogation.
Ça va pas être évident. Peut-être de signer des exclus chez des indés, des choses comme ça. Ça peut être un moyen de booster cette formule.
Dernière news quand même. Hein, on en a parlé la semaine dernière parce que c'était l'arrivée de la Switch. On a été d'une manière assez surprenante. Hein, je vous avoue que je ne m'attendais pas à être aussi emballé. Mais autour de cette table, les avis étaient assez unanimes pour dire que là, pour le coup, Nintendo semblait avoir visé juste. Et les chiffres de vente semblent confirmer cette impression que nous avions au moment de l'enregistrement, mais on a enregistré le jour même de la sortie, hein, donc on était vraiment, vraiment dans le tempo et on n'en savait rien. Mais en 3 jours, il s'est écoulé 105 000 Switch en France, ce qui est non seulement le record de Nintendo, mais selon Nintendo, Nintendo, le record absolu d'un lancement de console en France. Donc, selon Nintendo, la PlayStation 2, c'était 70 000, la PS4, 90 000. Et même la Wii s'incline, elle avait eu 95 000 ventes en 2006. La 105 000, donc, c'est vraiment le plus grand départ. Avec des scores assez exceptionnels au Japon, avec plus de 330 000 ventes.
Ça, c'est un bon voyant. C'était pas gagné. Enfin, il y avait une vraie interrogation sur le marché japonais.
Et aussi aux États-Unis, où c'est le meilleur. La seule info qu'on sait, c'est que c'est le meilleur départ historique d'une console de Nintendo.
Non, c'est pas surtout des fans de Zelda. C'est la question que je me pose. C'est tous les fans de Zelda qui ont été frustrés.
Je crois que le taux d'attachement
se ruer dessus.
En même temps, voilà, pour l'instant, la Switch, c'est un peu Zelda qui est vendu avec sa console pour 350 euros.
Sur Figaro, j'ai vu des chiffres. Je crois qu'il y a 130 000 Zelda qui ont été vendus en fait, dans la période entre. Donc la version Switch à 96 000 et puis le reste en Wii U. Donc oui, effectivement, Zelda. Et c'était bien joué, c'est qu'ils ont une vraie killer app qui booste la console.
Pour le coup, c'est vrai que
tous les voyants sont ouverts. C'est vrai que le Japon, les États-Unis, l'Europe, la France, on l'a vu. Donc on est un marché important, la France, pour Nintendo. Tout ça est ouvert. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a une première étape qui est validée. C'est-à-dire que le lancement est bon, ça prend. Tout n'est pas gagné parce que là, je pense effectivement que les fans, comme tu disais, Zelda, le public pro Nintendo était enthousiasmé par l'offre qui est originale. Hein, vous en avez parlé la semaine dernière. C'est vrai que la console est intéressante, elle est originale. C'est maintenant que le travail va vraiment commencer, c'est de toucher les autres. C'est là où la Wii U avait échoué, c'est de pas réussir à dépasser le clan des fans de Nintendo et vraiment toucher le grand public.
C'est aussi un départ comme ça qui, parce que on connaît les relations compliquées de Nintendo avec les éditeurs tiers.
Ça va rassurer les éditeurs.
On sait que sur une console Nintendo qui se vend bien, les éditeurs tiers y vont. On l'a vu avec notamment la DS qui avait été très utilisée, très très validée par les éditeurs tiers.
Plus de gens qui vont l'acheter. Donc en tout cas, il y a une première étape qui est très très positive et ça donne vraiment envie de se dire que c'est bien parti.
Je trouve c'est assez marrant parce qu'on en a. Enfin, c'est pas qu'on a plus de surprises dans le jeu vidéo, loin de là.
Mais en termes de console, je
suis vraiment surpris à tous les niveaux. C'est par la console elle-même. Et sincèrement, agréablement surpris par son succès. Donc, c'est cool. Voilà. Le com des coms de la semaine dernière, on reste évidemment sur le sujet de la Switch, avec Nomisis qui nous dit « Quel plaisir de vous entendre vous extasier sur la sortie de la Switch et de son Zelda. Je partage vos avis dithyrambiques pour la Switch. Je ne comptais pas du tout la prendre jusqu'au jour de la sortie. J'ai eu comme une pulsion nostalgique à vouloir soutenir Nintendo suite à la débâcle de la Wii U. Ce qui manque peut-être dans votre avis sur la console et que vous n'avez pas, c'est que vous ne l'avez pas acheté. Pour ma part, je suis retombé en enfance en découvrant ce jouet qu'on peut assembler comme un Lego. Je trouve la finition de la console incroyable et le plaisir en main est parfait. Ils vont faire un carton sur cette nouvelle génération. Red qui répond à Cytoplasme, qui disait plutôt la Switch est une console portable de rêve. Red dit « Je suis d'accord, mais quelques nuances subsistent. La douleur rapide dans le creux des mains, parce qu'elle est lourde. Le câble d'alimentation mal placé pour une recharge en mode portable. L'autonomie, venant de la 3DS XL, on passe de 6 à 3 heures quand même. L'impossibilité actuelle de recharger dans le train ou l'avion en USB et l'impossibilité actuelle d'avoir un player vidéo. » J'ajouterais à ça l'impossibilité actuelle de transférer ses sauvegardes d'une Switch à l'autre, mais bon, ça c'est perso et ça ne concerne pas beaucoup de gens actuellement. Mais sinon, c'est du tout bon, la plateforme idéale pour de l'indé et le Zelda du siècle. Et enfin, Lina Nounette qui nous dit après avoir acheté la Wii U Day One, j'avais juré qu'on ne m'y reprendrait plus. En conséquence, j'ai acheté la Switch le jour de sa sortie et je suis plus que ravi. Bien sûr, il serait ridicule de comparer la nouvelle portable de salon de Nintendo avec la concurrence, que ce soit la PS4, que sont la PS4 et la Xbox dans une moindre mesure. Elles ne jouent pas sur le même créneau. Oui, la console de Nintendo m'apparaît comme une sorte de chaînon manquant. Je l'ai lu ou entendu ailleurs, mais je crois que pour ce qui me concerne, elle répond à un besoin que je ne savais pas avoir. Le fait de pouvoir passer sa partie aussi simplement de la télévision à la portable est juste génial, surtout quand comme moi on a 2 heures de transport par jour. La console est simple, efficace et limpide à comprendre. Je n'en demande pas plus et nous non plus. Voilà, et ben c'est parti. Par ailleurs, on va passer, parce qu'on aurait pu, on pourrait en parler, on pourrait faire une 12e émission sur la Switch, mais ce ne va pas être le cas parce que nous allons partir sur un jeu dont la beauté est inversement proportionnelle à mon envie d'y jouer, qui est Ghost Recon Wildlands. La Bolivie, c'est quand même beau. Je ne connaissais pas ce pays. Maintenant, je le connais un peu plus. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. J'en sais rien. Non, c'est beau. Mais c'est Ghost Recon. Je n'ai jamais caché mon léger souci avec cette licence Tom Clancy. Voilà, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec les Ghost Recon. J'ai toujours... Voilà, et maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de m'y mettre. Bon, on s'y met, hein. On rentre dedans parce que c'est Wildlands, c'est quand même le triple A de ce début d'année côté Ubisoft, c'est quand même une énorme production made in Paris, hein. C'est Ubisoft Paris qui s'en charge, qui nous a modélisé pour le coup la Bolivie, hein. Pourquoi faire petit, allez, hop, la Bolivie, ce sera pas mal. On commence, Joël, ce Ghost Recon Wildlands.
Alors Ghost Recon Wildlands... Un jeu monde ouvert, donc maintenant Ubisoft, voilà, ils savent très bien faire. Voilà, donc on vient après The Division, on vient après Watch Dogs 2, donc monde ouvert, super. Bon, quoi, ça, effectivement, comme tu le soulignes, Erwan, les paysages sont magnifiques.
Il y a une gestion du paysage quand même qui est folle.
On peut se balader.
Le premier contact est assez troublant.
Voilà, on peut se balader partout. Et puis, effectivement, l'Amérique du Sud, c'est pas un continent qui est souvent représenté dans le jeu vidéo. Moi, la dernière fois que je m'étais baladé en Amérique du Sud, dans le jeu vidéo, c'était avec Max Payne qui était Max Payne avait dans les favelas de
en fait
Rio.
Le truc c'est que dans le jeu vidéo, surtout dans les jeux vidéo de un peu guerrier, hein, comme ça, il y a les régions, hein, donc on sait que le Moyen-Orient, on est sur du terrorisme islamiste. Bien, La Corée du Nord, on est un peu sur la dictature communiste. Et l'Amérique du Sud, on est un peu sur le cartel de drogue.
Alors, voilà. Alors, cela dit, le Moyen-Orient, je trouve qu'il n'est pas tellement, ces derniers temps, pas tellement représenté. Je trouve
ils se sont calmés, oui.
Parce qu'ils se sont calmés, ouais. Je pense que c'est un peu touchy comme sujet, quoi, à mon avis, de parler de l'État islamique, d'ISIS. Je pense qu'ils n'osent pas encore. Ouais. En fait, ils n'osent pas.
Il y a eu quand même une petite overdose suite à quelques Call of Duty, Battlefield, machin et tout ça.
Donc là, les narcotrafiquants. Ouais. Donc,
narcotrafiquants.
Voilà, forcément.
Terroristes, je crois. Hein.
Ah bon. Oui, parce que c'est au-dessus, donc on est. C'est combo.
Il y en a partout. Il y en a partout dans cette Bolivie. Il y en a à tous les coins de rue. c'est un petit peu étrange. Ça m'a rappelé des Far Cry, en fait, notamment à Far Cry, le deuxième, celui qui se passait en Afrique, où il y avait vraiment, en fait, l'impression que l'Afrique, c'était un continent.
De mercenaires.
Là, c'est un peu embêtant. Moi, ça m'embête un petit peu de voir la Bolivie représentée ainsi. Alors, je ne parle pas encore du gameplay, on va y venir, mais de voir la Bolivie représentée ainsi.
Ce qui n'a pas plu, on va faire une petite aparté, à la Bolivie elle-même,
en fait, qui a demandé en fait, à rencontrer l'ambassadeur français pour lui remettre une lettre de plainte à Ubisoft disant que ce jeu qui se réserve toutes les actions légales pour poursuivre le jeu qu'il trouve que effectivement représenter la Colombie la Bolivie sous la férule d'un gouvernement corrompu, c'est pas terrible. Effectivement, je trouve ça un petit peu gênant. On incarne donc un avatar au milieu d'une escouade. On a trois ou quatre types, je me rappelle plus, qui nous suivent.
On est quatre.
Donc voilà, moi j'ai. Et puis donc des Américains qui vont faire le nettoyage par le vide dans le pays.
Tom Clancy, quatre Américains, la Bolivie.
Le jeu est vraiment, par rapport à la Bolivie, est quand même très méprisant. C'est-à-dire qu'ils ont beau dire, dans les interviews, mais on voulait représenter l'âme de la Colombie.
La Bolivie.
Il y a des cartels de drogue, forcément. Effectivement, parce que je trouvais que. Je pense à la Colombie par rapport à la série Narcos. Où là, je me suis dit, la série Narcos était beaucoup plus intéressante en termes de. De mettre en relation tous les acteurs du narcotrafic. Mmh. Par exemple, dans le jeu, on a différentes factions. On a une espèce de faction paramilitaire qui va nous poursuivre, tels les policiers dans GTA, avec une espèce d'indice de recherche. On a des révolutionnaires.
Les Qataris.
Voilà,
26.
Je ne sais pas comment ils s'appellent.
Les
révolutionnaires qu'on va pouvoir aider en mettant des balises dans des mâles. Ils vont récupérer tous ces produits. Mais ce que je trouve un peu gênant, c'est-à-dire que, alors, je pense à la Colombie. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus compliqué le rapport entre les trafiquants et les révolutionnaires. On sait bien qu'il y a eu, par exemple, comme en Colombie, entre les FARC et le narcotrafic, il y a eu des accointances. Je veux dire, les révolutionnaires ont aussi accepté l'argent du narcotrafic. Là, dans le jeu, c'est pas du tout présenté ainsi. C'est blanc, c'est noir, quoi. Puis voilà. Parlons du gameplay. C'est bien fait, c'est très bien fait. Effectivement, on a des missions principales où on va, c'est un devoir plus ou moins s'infiltrer ou y aller au bazooka, la méthode forte. C'est bien fait, mais à part ça, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire, les personnages sont très peu introduits. Nous-mêmes, on n'a aucun attachement à cette escouade qui a des dialogues aucunement intéressant. J'ai été très, très gêné dès le début du jeu par la représentation. En fait, la première mission, on tombe à l'intérieur d'une maison. Alors, ce qui est très bien fait, c'est-à-dire qu'on peut se balader dans les maisons, à l'intérieur. C'est une des premières fois où je trouve que dans un monde ouvert, on peut autant se promener dans des maisons. Dans des maisons, on tombe sur un charnier, des corps étendus sous le sol. Et je trouvais que c'était dégueulasse. Je trouvais que c'était infect. Pourquoi ils sont là? Pourquoi on n'a pas d'aide? Pourquoi on nous les présente de manière aussi crue? On ne sait pas pourquoi. Je trouve que c'était aussi un mépris par rapport aux Boliviens. pas du tout aimé. Voilà, après l'émission, voilà, il y a des territoires, donc cette Bolongvie est constituée en différents territoires qu'on va libérer.
Il faut démanteler le cartel, petit bout par petit bout.
Voilà,
en fait,
qu'on va libérer les uns après les autres. Ça reste assez traditionnel. Des missions très diverses, mais qui vont finalement devenir assez répétitives, des missions d'escorte, des missions de choper des convois, d'arrêter des convois, des missions de... Alors ce qui est pas mal, des missions de largage aussi, parce qu'on peut se balader dans différents véhicules. Mm-hmm. Alors moi j'aime bien, j'ai essayé le tracteur, je trouve ça pas mal en fait. Non mais pourquoi le tracteur, on peut faire le tracteur, mais bon il y a aussi des avions, les hélicoptères.
Ouais, les motos, les...
Voilà. On repense à Just Cause aussi, mais sans le grain de folie de Just Cause. Là,
Patrick,
c'est triste. Quoi.
Ouais, non, enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai jamais été un très bon client pour Ghost Recon, pour la série. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ça plutôt technique. C'est vrai que la racine de Ghost Recon, qui est sortie en 2001, je crois, sur PC. C'est vraiment du jeu tactique par équipe, donc qui est plutôt austère, qui n'est pas forcément très funky. C'est vraiment pour les spécialistes. Moi, j'ai un copain qui jouait beaucoup, je le voyais jouer. Il faut s'accrocher, c'est très technique. Le moindre faux pas est très punitif. Enfin, voilà, c'est une série, mais qui a su évoluer. Je me rappelle du Advanced Warfighter, qui était sorti, je crois, en 2006 sur Xbox 360, qui commençait à évoluer, qui était beaucoup plus action, qui était très spectaculaire. C'est un des premiers jeux, je crois, sur Next Gen à l'époque. Il commençait vraiment à montrer une orientation de la série vers autre chose, de quelque chose de plus accessible. Et là, moi, j'étais vraiment surpris par ce Wildlands, parce que voilà, moi, j'avais tous ces images de jeux assez austères et pas forcément très funky. Et en fait, moi, je suis tombé sur un Far Cry. Moi, j'adore Far Cry. C'est une de mes séries que je trouve fabuleuse. Et je trouve qu'il ressemble vraiment à un Far Cry. On retrouve beaucoup d'éléments. On a vraiment l'impression de jouer à un Far Cry en troisième personne, enfin, en vue troisième personne. On retrouve le côté monde ouvert gigantesque. On retrouve les différentes missions à droite à gauche qui s'enclenchent. On retrouve les différents... Un peu moins présent les animaux. Alors on n'a pas la chasse.
Des cochons, des poules.
Mais on n'a pas on a pas ce côté chasse qu'on a dans les Far Cry. Mais en fait, il y a un jeu complètement décomplexé. Alors c'est vrai qu'il faut passer, il faut vraiment passer outre ce vide scénaristique, comme tu disais, qui est troublant. C'est vrai qu'on est projeté avec ces quatre personnages qui sont transparents. C'est vrai qu'à un moment, j'avais quelques heures de jeu et je me suis rendu compte que je connaissais pas les trois mecs qui me suivaient depuis un moment. J'étais en solo. Ouais. Ils me disaient les trois types. Même mon perso que j'ai passé un petit peu de temps à créer parce qu'on a un petit éditeur de création de personnages. Finalement, je les connais pas, on se parle, ils m'envoient des vannes et je les connaissais pas, je me suis rendu compte que j'avais très peu d'affect avec eux. Donc ça, il faut vraiment passer outre ce côté aussi brut de décoffrage du scénario, comme vous disiez.
Et puis au bout de quelques heures, tu connaîtras pas davantage
finalement, ces personnages, finalement, on s'en fout, on les éclipse. Et on se rend compte que c'est vraiment ce jeu en monde ouvert où finalement, le héros, c'est le terrain de jeu. Et même les personnages principaux, qui sont censés quand même être importants, ils disparaissent. Et c'est vraiment la carte qui est l'héroïne de ce jeu. C'est l'environnement. Et c'est vraiment ce qui ressort c'est un jeu d'espace où vraiment on a ce... Et là, c'est vrai que c'est assez fort parce qu'on a une taille assez monstrueuse. Donc il y a ce côté vraiment où c'est l'univers qui est mis en avant, qui est très joli. Les photoréalistes, il y a des moments où on s'arrête, on regarde, c'est vraiment très joli.
Ouais,
on peut même se balader dans des recoins comme ça. Et il y a ce côté aussi, il y a ce côté un peu décomplexé par rapport... Moi, j'ai une vision plutôt sérieuse des Ghost Recon. C'est vrai qu'en général, c'est plutôt quelque chose de sérieux. On connaît l'univers Tom Clancy, qui est plutôt militaire, etc. Là, il y a ces tentatives de blagues entre les personnages. Et finalement, il faut passer outre ça. Bah, à un moment, je me suis rendu compte, à un moment, j'avais pris un pick-up et j'avais mes quatre bonhommes dedans et on mitraillait dans un village. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'agence touriste, en fait. On est ce groupe de personnages comme ça. Il y a un côté... Finalement, on se retrouve dans une sorte de jeu d'action comme ça qui, une fois qu'on commence à passer outre, qu'on oublie le scénario, on rentre dans le gameplay et là on voit qu'il y a des choses qui marchent vraiment bien. Il y a ce côté ouvert de l'univers évidemment, mais le côté aussi ouvert des missions qu'on a aussi dans les Far Cry. Et là, on a vraiment pour moi, c'est une sorte de spin-off de Far Cry vraiment orienté multijoueur, qui est vraiment fait pour être à 4. Et là, on retrouve ce plaisir qu'on a d'aborder une mission à sa façon. À quatre, quand on a une base, on a quelqu'un à aller extraire d'une base où on doit aller chercher un renseignement, on est à quatre et là on peut vraiment l'aborder comme on veut. Et là, c'est là où vraiment il y a ce gameplay qui est bien rodé. On sent qu'il y a Ubi connaît très bien cette façon de faire des missions ouvertes. Et là, ça marche vraiment bien. Il y a un côté fun à s'accaparer les missions et finalement se faire sa propre histoire soi-même. C'est vrai qu'on ces personnages finalement vides. eh ben on s'en moque et on vit les missions elles-mêmes, on vit l'action.
Les missions sont pas, comment dire, moi je trouve que le jeu n'est pas construit une histoire. Enfin, autant je trouve le précepte d'Ubisoft de faire des jeux ouverts où on est maître de sa propre histoire, je trouve ça très intéressant, mais là ça fonctionne. Autant ça pouvait, non, Watch Dogs 2, je trouve que ça fonctionnait, mais là
plus, ouais, le scénario était plus,
mais là plus du tout, mais là plus du tout. Mais là, plus du tout. Il y a pas. Alors, moi, je voudrais juste revenir. C'est-à-dire, je trouve que le jeu est daté, c'est-à-dire que daté idéologiquement même. En fait, parce que je repense à la guerre contre la drogue, ne marche pas. Enfin, n'a pas marché. Même en fait, l'ONU, comment dire, en avril 2016, avait acté ça en fait, en disant, là, ça marche pas. Je veux dire, on dépense des millions pour lutter contre le narcotrafic, mais on fait pas assez d'efforts sur la prévention, sur la prise en charge des usagers. Effectivement, je trouve que le jeu, c'est un jeu qui aurait pu être fait pendant l'ère Reagan, quoi. C'est-à-dire c'est un jeu qui est en retard, qui idéologiquement, c'est un jeu réac et en retard, quoi. Qui parle d'une époque révolue.
Qui pense, en fait, c'est clair que quand on se met à la place d'Ubisoft, on pense, on va pas encore faire de terroristes, machin, on va pas encore faire. Allez, on va faire l'ennemi un peu facile qui est le trafiquant de drogue, mais en même temps, même là. C'est vrai que cette espèce de guerre sans fin qui est de buter des grands méchants au Mexique ou en Bolivie ou en Colombie ou je ne sais où, alors qu'on ne fait rien pour l'appel d'air, la demande qui vient des États-Unis, qui vient du Canada, bon, c'est un peu, y a ce côté un peu effectivement ce que tu dis daté. Après, moi, j'ai un souci avec ce Ghost Recon. Bon, je l'ai dit, je n'avais pas forcément hyper envie d'y jouer. J'ai quand même joué. J'ai trouvé le premier contact super beau, très impressionnant techniquement. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les premiers objectifs où tu sais que ton objectif est dans 3 km. Mmh. Et en fait, tu arrives en haut d'une montagne et tu vois ton objectif en haut de la montagne suivante. Il y a un côté comme ça, un peu vertigineux, à voir ces distances un peu folles qui s'affichent.
Quand tu prends un hélicoptère aussi. Quand tu prends un hélicoptère. Ou un avion, où tu vois les surfaces.
Mais, et pour revenir sur ce que disait Joël, je le trouve sinistre. Je le trouve... tu n'as pas envie d'être là. T'as pas envie de jouer un Américain qui vient sauver la Bolivie contre un trafiquant de drogue. T'as pas envie de... je trouve ça triste d'avoir fait tout cet effort inconcevable pour, comme ce que tu dis, le héros, c'est le territoire, le héros,
oui,
c'est la carte. On le maltraite, ce héros. Ouais. On maltraite tout ce travail incroyable qui a été fait sur la Bolivie. Je trouve qu'on le maltraite avec ce jeu. Je ne dis pas que c'est complètement con de vouloir faire un jeu d'action là-dedans. Au contraire, faisons un jeu d'action. Mais c'est sinistre ce que tu dis. Oui, il y a des cadavres, des trafiquants de drogue à tous les coins de rue. Il n'y a pas de scénario. Mais pourquoi, quand on a un truc pareil, pourquoi pas de proposer une expérience un peu plus ample que ce truc de Tom Clancy, quoi. Enfin, voilà, Tom Clancy. Mm-hmm. Ça aussi, c'est daté. Oui. Ça aussi, c'est années 80.
Ouais, oui. Oui.
Et c'est vrai que la ressemblance avec Far Cry est troublante, même au niveau de la radio. Je crois que c'est même le même doubleur.
Enfin, à un moment, j'avais juste envie, j'ai pris pour la première fois l'hélicoptère, j'avais juste envie de sortir avec un deltaplane
et de sauter.
Voilà, ok, là, on s'amuse. Là, on est dans la fiction et dans le truc un peu fun, quoi. Bon, bref, on va pas s'attarder parce que. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter.
Non, on le fait pas pour le scénario, on est d'accord. C'est plus pour les mécaniques de gameplay, je trouve.
C'est vrai que le truc qui techniquement marche bien, il y a cette histoire d'avoir un drone, qui existe dans d'autres jeux. Ça existe évidemment dans plein d'autres jeux, dont Watch Dogs. Qui permet, qui est très utile pour repérer les scènes, avoir une approche un peu tactique.
Et c'est là on retrouve Ghost Recon, préparer son action avant de.
Mais bon.
Moi, je pensais aussi zut. Celui Snake, ce...
À Metal Gear.
Oui, je pensais aussi à Metal Gear, vraiment. Il y a des phases un peu comme ça.
Oui, préparation,
on prépare.
Action, etc.
Mais il n'y a rien d'original, c'est-à-dire. Jeu prend du gameplay par-ci, par-là, et puis il rassemble tout. Très bien, c'est très bien fait, mais après...
Il ne pourrait pas faire genre un DLC, un anti-DLC, c'est-à-dire un jeu en enlevant du contenu, tu sais, genre... En fait, où on te propose un Ghost Recon sans Wildlands, ou un Wildlands sans Ghost Recon.
Et là, tu te baladerais juste, en fait.
Mais ouais,
ça,
en fait, un anti-DLC, tu enlèves du contenu. Je veux plus des cartels de drogue, je veux me balader dans la Bolivie. Ça pourrait être pas mal, ça.
Non, si tu ranges ton arme, tu peux te balader sans trop de problèmes. Tu t'actives pas les
missions. Non, mais on parle de la drogue. Puis vraiment, la drogue, il y a plein de choses à raconter. Il y a toute une géopolitique. Et c'est ça que je comprends pas pourquoi ils sont. Là, pour moi, c'est l'échec du monde ouvert. Ils auraient pu faire quelque chose de. La drogue, c'est géopolitique.
Moins manichéen,
mais aussi montrer le trafic, comment les réseaux fonctionnent, comment la corruption aussi.
Après, c'est un jeu sociologique.
Mais peut-être un peu plus. Il faut le raconter, ça, c'est peut-être un peu plus intéressant.
On peut tuer des gens et apprendre des choses.
Hein, voilà. Parler avec les gens.
C'est pas antinomique. Ghost Recon Wildlands, Ubisoft sur tout ce que vous voulez. C'est le moment de découvrir le dernier né de l'écurie Devolver Digital. On a appris avec les années à regarder de près quand même ce que cet éditeur, cette sorte de comment on pourrait appeler ça, de pépinière d'indé, c'est déniche. Et là, il a déniché un studio écossais de Glasgow qui s'appelle No Code et qui ont fait un jeu qui s'appelle Stories Untold. Je ne m'y attendais pas à être encore une fois scotché par une nouvelle manière d'appréhender une histoire dans le jeu vidéo. On a été gâté ces dernières années. On a été gâté avec les walking games que pouvait être, je ne sais plus, j'ai plus le nom, mais là où on rentre dans la maison, là, on joue la nana qui revient chez elle.
Bien sûr.
Voilà, on n'a pas le nom. Ça va nous revenir. C'est très gênant, mais bon, avec
tout. Enfin, il y en a plein.
Avec les Telltales qui avaient réinventé un peu le jeu d'aventure, avec Oxenfree, le walking and talking game, avec Firewatch qui imaginait d'autres choses, avec
Virginia
les.
Virginia aussi.
Il tentait des choses. C'est la narration en fait.
Et avec les puzzles narratifs aussi, que sont Her Stories ou plus récemment Normal Lost Phone qu'on a trouvé. Et je ne m'attendais pas à encore une fois me retrouver face à une nouvelle manière d'appréhender la narration. Et là, Stories Untold, pas vraiment par épisode, mais par chapitre, avec quatre histoires qui réinventent l'aventure textuelle. Et on parle d'aventure textuelle, alors forcément, j'ai envie de laisser la parole à Patrick.
Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Une partie se passe en 86, donc déjà tout est dit, j'ai envie de dire.
Non. Patrick, on le sait, c'est 84.
86. Ouais. Mais c'est très intéressant ce jeu. C'est quand même un jeu qui s'ouvre sur un... Moi, ça a été un choc. Alors, pour tout vous dire, moi, j'avais déjà fait une première partie de la... Enfin, le premier chapitre est sorti, en fait, en téléchargement il y a quelques temps, en fait, qui était déjà disponible. Et là, donc, c'est une version complète avec quatre chapitres qui se succèdent, avec quatre histoires, on va dire, avec un fil rouge, ce rapport à l'ordinateur, ce rapport au clavier. On avait déjà un petit peu parlé de ça avec Event Zero, dont on avait parlé ici il y a quelques mois, ce rapport au clavier des années 80. Donc là, on est quand même sur un jeu, donc, avec Stories Untold, qui s'ouvre sur un magnifique Spectrum plus 2, sur un bureau très années 80. Il s'appelle Futuro plus 2, mais bon, c'est un ZX Spectrum. 128K. Donc c'est bien un ZX.
Non, mais dès le début, on entend le chointement de la...
C'est ça, exactement, le
chointement de la cassette qui se charge.
Et ça, il faut avoir connu, malheureusement, plains...
Je pensais plutôt à un truc type Amstrad.
Non, c'est un Spectrum, c'est sûr. Non, mais vu le look, c'est vraiment... Je pense qu'ils n'ont pas pu reprendre la marque, qui en plus relance aujourd'hui peut-être des machines, je crois. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un ZX Spectrum Plus 2 avec l'écran à tube à côté qui saute un petit peu, l'écran un petit peu baveux. Comme tu disais, je crois que le premier son qu'on entend dans le jeu, passé le générique, c'est un chargement de cassette.
Vous avez connu avec... ça
Et nous sommes ravis d'avoir connu ça. Moi, à la limite, je plains les plus jeunes qui ne connaîtront pas ce plaisir d'avoir un jeu.
Non, mais vrai,
30. Moi, c'était 20 ou 30 sur Amstrad. Mais attention.
Arkanoid, je me rappelle, c'était très bien, c'était un quart d'heure et il y avait effectivement cet écran.
L'image qui prenait la moitié du temps pour l'afficher. Ouais. Mais attention, ça amenait un rapport au jeu une préciosité du jeu lorsqu'il arrivait.
On l'attendait.
Il y avait une vraie attente. Et je sais que je fais un peu vieux con en disant en
tous,
parlant de ça.
On
mais,
fait tous.
Non mais pour tout vous dire, pour resituer, parce que c'est important sur ce jeu, c'est qu'il y avait un rapport à l'écran, au clavier, au chargement du jeu qui en faisait un objet très particulier. On l'attendait, il était long à arriver, et quand il était là, il y avait une sorte de cérémonial, quoi. On était sur quelque chose d'important. Et voilà, donc le jeu s'ouvre sur cet ordinateur des années 80, qu'on allume, etc. Et puis on est sur une interface purement textuelle, donc mise en abîme dans l'écran, puisqu'on est à l'écran, on a cet ordinateur affiché, ce petit décor qui bouge un petit peu, et puis on a cet écran, et donc l'interface va retrouver, en fait on utilise notre clavier du monde réel, comme Event Zero d'ailleurs, et on va taper des ordres textuels, comme à la bonne vieille époque des jeux d'aventure textuels, du début
alors,
des années 80.
Petite précision importante, le jeu pour l'instant n'est pas traduit.
Oui,
donc c'est un jeu en anglais non sous-titré en français. Mais et il faut mettre les commandes en anglais. Sachant qu'il y a quand même un nombre limité de commandes importantes à connaître. Mais
pour en avoir fait quelques-uns, l'anglais n'est pas très compliqué dans le jeu. Il faut un petit peu connaître. J'ai envie de dire, même pour ceux qui apprennent l'anglais, moi je me suis aussi mis des coups de pied aux fesses. Non mais pas pour ce jeu, mais quand j'avais 10-12 ans, je me suis mis à l'anglais aussi pour comprendre mes jeux d'aventure en anglais. Je me rappelle Mind Shadow, un jeu d'aventure. Bah, je voulais comprendre ce qui se passe à l'écran, donc ça m'a aussi aidé. Donc ouais, ça peut être aussi. On doit le mettre dans toutes les écoles, ce jeu. Voilà. Non mais voilà, ça peut. Non mais voilà, il faut pas se bloquer là-dessus. C'est de l'anglais qui est plutôt abordable. Et puis au pire, vous prenez un dico à côté. Et puis ça peut aider aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc on se retrouve dans ce jeu des voilà où on est plongé dans cette scénographie des années 80 et puis ça bascule parce qu'on est sur un jeu donc sur ce premier chapitre jeu d'horreur, c'est un jeu d'horreur donc on
le premier chapitre s'appelle The House Abandoned.
Exactement. Donc on incarne un personnage qui se rend dans une maison qui lui a été chère dans son enfance, qui va l'explorer et c'est là que le jeu on va essayer de pas trop spoiler parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment découvrir à l'écran.
C'est difficile.
En tout cas, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une vraie mise en abîme du joueur, c'est là que j'ai trouvé que c'était très fort. Le tour de force de ce jeu, c'est de nous mettre, nous, en tant que joueurs, en train de jouer à un jeu chez soi, sur son ordinateur, qui simule un jeu des années 80, où on va soi-même apparaître dedans. Enfin, il y a une mise en abîme assez incroyable.
C'est un tour de force. The House Abandoned. Donc le premier chapitre, qui donc était déjà disponible, était déjà jouable avant, elle était un peu remasterisée pour ce côté-là. Pour tout vous dire, les débuts, on découvre un peu cette interface textuelle. Moi, j'ai du mal à trouver le générateur.
Il faut préciser que rien n'est indiqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tutoriel. Il faut vraiment être.
Ceux qui s'y sont essayés. Chercher. Surtout, et c'est un hyper important, look around. Regardez autour de soi.
Voilà.
C'est la première chose à chaque fois qu'on arrive dans un endroit. Et avec ça, avec le look around, normalement, on s'en sort.
Franchement, pour en avoir fait quelques-uns, des jeux d'aventure textuelle, celui-ci n'est pas très compliqué. Il n'y a pas d'objet. Tout est plutôt bien indiqué dans la description des lieux. Comme tu dis, il faut toujours regarder ce qu'il y a autour de soi. Et en général, les choses importantes à détecter sont dans le listing des choses qui nous entourent. Il n'y a pas de choses complètement tordues. Il faut juste apprendre à manipuler les objets qu'on nous montre autour de soi.
Le tour de force, c'est qu'au bout de chaque chapitre, il y en a quatre, on va dire, chaque chapitre joue un peu plus d'une heure. Enfin, ça faisait bon si on est bloqué ou
ça
pas,
dépend,
tout ça.
Des blocages, on peut...
Mais le premier chapitre, au bout de 20-25 minutes, il y a un truc qui se passe. Mmh. Et là, on est à la limite du génie pur d'un truc, moi... Alors qu'on joue à un jeu, une sorte de mise en abîme de jeu textuel, mais l'interface de jeu est textuelle, j'ai rarement été aussi mal à l'aise.
Parce que, ce qui est très fort, c'est
aussi,
que...
Aussi crispé sur un jeu que là, alors que c'était un jeu textuel. Et j'en revenais pas d'être dans cette situation-là où j'étais, mais vraiment... tendu, j'étais en tension vis-à-vis du jeu.
On sent un vrai malaise dans le jeu. Vous l'avez pas dit, mais alors c'est quatre histoires. La tagline, c'est quatre histoires, un cauchemar.
Ouais.
Voilà, parce qu'il faut bien. Et ce que je trouvais très fort dans le jeu, c'est que ces quatre chapitres sont vraiment entremêlés les uns avec les autres. Ouais. On va avoir des éléments. C'est dur de ne pas parler
brillant.
Du jeu sans trop.
C'est brillant.
On va avoir des éléments qui se répondent donc entre les chapitres. Le quatrième, le dernier, va un peu nous révéler
ce qui se passe, oui, ce qui, une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce, ce cauchemar?
Là où c'est brillant, c'est encore plus parce que c'est la force du jeu vidéo. C'est la force de cette interaction qui fait qu'on se souvient des choses, on se souvient des actions qu'on a faites. Et en fait, le quatrième chapitre donne une cohérence incroyable à l'ensemble. Et surtout, c'est un peu comme si on se retrouvait dans un Usual Suspect, le film.
N'en dites pas trop, faites attention.
Non, j'en dis absolument pas trop, mais Usual Suspect, on connaît. Enfin, je vais pas spoiler Usual Suspect quand même, hein, on a le droit maintenant. Mais avec le Kaiser Soze, où il y a plein de détails et où le film est obligé de faire les flashbacks pour qu'on comprenne à quel détail se rapportent les choses. Enfin, Et là, non, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que chaque phrase, chaque chose, on se dit « mais oui, c'était ça. Mais oui, il y avait ça. Mais oui. » Et on se souvient comme ça. Et tout l'ensemble, Stories Untold, se retrouve à être d'une cohérence absolue. Et c'est absolument facile.
Le principe est très intéressant, je trouve, parce qu'on est sur un jeu fait en 2016 ou 2017. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met en scène les limitations d'un jeu d'il y a 20 ou 30 ans, même aujourd'hui, et qu'il en joue dans la mise en scène. C'est ce qui fait la force, en tout cas, du premier chapitre. Comme tu disais, il y a des sursauts, il y a des choses qui vont se passer, parce qu'il s'amuse avec les codes. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'on voit un jeu mis en scène dans un jeu de cette manière, à mon sens, hein, je me trompe peut-être, mais il s'amuse des limitations de ce genre. Qui, comme tu dis, est un jeu purement textuel, avec aussi sa capacité. Enfin, il faut se rappeler, moi, j'ai vécu des choses formidables avec des jeux d'aventure textuels à l'époque, parce que tout se passe dans l'esprit. Et ce qui se passe dans ce premier chapitre, notamment, la force qu'on lui donne, c'est aussi parce que tu mets beaucoup de toi, et ça, c'est le propre du jeu d'aventure textuel.
C'est
d'autant plus fort dans l'écriture de ce jeu, c'est que les descriptions sont très spartiates, très courtes. On n'est pas sur des longs fleuves de texte. C'est plutôt court. Et c'est toujours très, très, très tranchant, très, très efficace.
Et puis il y a cette référence continue dans les trois premiers chapitres, hein, notamment, aux grands univers de l'épouvante.
Oui, bien sûr. Où chacun des
grands chapitres fait est bourré de références où on s'imagine.
J'aime bien le deuxième, qui est intéressant.
Le premier, donc... Une maison abandonnée, deuxième. Moi, je trouve, personnellement, je crois que c'est celui que j'ai préféré, le deuxième.
Le deuxième, on
se retrouve face à une expérience.
On est en laboratoire.
On a une machine devant nous qui va, des hertz, une boîte avec une perceuse qui va peut-être rentrer dedans, et on doit mener des expériences sur cette sur une chose qui se trouve à l'intérieur.
Ouais.
Malaise. Et je trouve que c'était très... Enfin, ce deuxième est très fort.
Alors, les quatre,
c'est pas seulement un jeu d'aventure textuelle, c'est-à-dire que on n'est pas seulement face à un écran. Il y a aussi plein de paramètres sur lesquels on va agir, plein d'autres écrans.
C'est un jeu très beau. Surtout, il fallait l'indiquer parce qu'on se dit jeu d'aventure textuelle, on est face à une internet. Non, le jeu est magnifique. C'est mise en scène.
Les gens qui ont fait ça connaissent bien leur sujet. Ils connaissent bien, je pense qu'ils en ont pratiqué.
Les gens qui ont fait ça, parce que j'ai envie de les citer. Parce que c'est John McKellan, c'est Omar Khan, c'est Geoff Angus et c'est Graham McKellan, donc le frangin du premier.
Il y en a un qui est un ancien d'Alien Isolation.
Ils ont bossé sur
Alien Isolation. On s'en rappelle, il y avait un souci maladif de reproduire l'informatique un peu rétro moderne de Alien. Ouais. Et ça, c'était très bien fichu avec les vieux écrans, etc. Et moi, je veux revenir sur la deuxième expérience qui est fabuleuse parce que sur la deuxième chapitre avec cette expérience, moi j'avais l'impression de porter une blouse blanche en le faisant parce qu'on a en plus cette touche.
Mais attends, il y a un truc, c'est qu'au bout d'un moment, on se demande, mais qui est ? Est-ce que c'est nous qui menons l'expérience ou sommes-nous le sujet de l'expérience ?
Il y a absolument par rapport à ce qu'on fait, la place du joueur face à un jeu d'aventure textuelle qui est super importante. Et puis là, sur le deuxième chapitre, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à un ordinateur, un clavier avec une saisie de texte, avec tout ce que ça entend comme rapport à la machine par le mot, la force du mot. Ça, c'est très important dans le jeu d'aventure textuelle. Là, on est vraiment sur de la machinerie où on passe de son clavier pour comprendre ce qu'on attend de nous. Et il y a ce geste avec la touche Stab, je crois, où on passe de son ordinateur aux éléments de l'expérience. Et je trouve qu'il y a une dynamique comme ça où on utilise l'outil informatique dans une aventure. Enfin, il y a vraiment un rapport, encore une fois, à l'écran, à l'information.
Et puis, sachant que dans cette deuxième expérience, on est guidé par une voix off. Qui fait froid dans le dos, qui fait très neutre, qui fait froid dans le dos, et voilà. Et les voix off, toutes les voix sont vraiment très bien fichues, c'est-à-dire les qu'elles sont très bien enregistrées.
Sont là par parcimonie, mais ils sont très judicieux.
Quand j'ai parlé du malaise et du mal-être sur le premier, il y avait énormément qui était fait par le son.
Tu t'es retourné ou pas? j'ai eu un petit moment et on se sent un peu idiot. Hein. Moi, je rêve de ce jeu-là en réalité virtuelle ou en réalité.
C'était prévu, non? C'était pas prévu.
De quoi?
Pas un truc.
Moi, je le vois ou en hybride, je sais pas, avoir à la fois son clavier de chez soi, parce qu'on a besoin de son clavier pour jouer, et en même temps avoir un environnement qui bougerait, ça serait fantastique de voir des choses qui se passeraient autour de soi. Non, c'est marrant parce que l'habillage fait très Stranger Things, que moi je... attention, il ne faut pas tomber dans le cliché. Pour moi, ça va bien plus loin que Stranger Things, que moi j'ai moyennement apprécié. Moi, j'y vois plus des références à la Twilight Zone, à la quatrième dimension. Black Mirror aussi, pour le rapport à l'écran, à la façon dont on perçoit l'image, etc. Mais très, moi, j'ai vraiment pensé à la quatrième dimension, dans ce rapport à... Ouais, ce côté un petit peu acide, voilà, au scénario.
Oui, c'est vrai que c'est assez. Ouais, quand tu dis acide, effectivement, c'est assez crispant crispant. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'on attend de nous et qui. Non seulement qu'est-ce qu'on attend de nous et qui est-on. Ouais. Enfin, on se pose sans cesse ces questions des quatre chapitres.
Surtout des trois premiers. Et puis et le fait est aussi que donc on a parlé de la narration. Vous avez parlé des aimants. Ce qui est fou, c'est que donc on a sur les trois premiers, même sur les quatre, non. Ensemble, on a vraiment des univers différents dans chaque chapitre. Et puis, on a aussi un gameplay différent dans chaque chapitre. Avec le premier, où on est sur une pure interface de narration, hein, où il faut trouver les actions à faire pour avancer. Le deuxième, où on est dans une phase d'interaction, notamment avec les éléments du décor, qu'est-ce qu'on fait, comment on conduit une expérience scientifique. La troisième, où on est dans une phase d'énigme. Et là, ça faisait longtemps...
C'est compliqué.
Les énigmes sont compliquées, mais limpide en même temps. C'est-à-dire qu'on sait très vite ce qu'on doit faire. On consulte des microfilms pour avoir des informations, pour remplir des codes et tout ça.
Et de toute façon, à ce moment-là, on est déjà assez mordu par le jeu pour se dire « je continue, je lâche pas l'affaire parce que... »
Autant vous dire que si je suis fatigué, on sait qu'on enregistre le matin, certes, mais c'est aussi que j'ai juste perdu ma nuit je me suis couché beaucoup trop tard avec ce Stories Untold parce que je n'ai pas pu le lâcher. Il fallait que j'arrive au bout. Et j'ai été voilà. Je pense qu'on n'a pas dévoilé, en tout cas dans cette émission, le scénario et on ne va pas le faire.
J'ai quand même petite réticence et je trouve que le quatrième chapitre, donc qui va un petit peu rassembler tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti et qui va rassembler aussi les éléments de la grande histoire, je trouve qu'il n'est pas assez bien ficelé. C'est-à-dire qu'il aurait pu être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus punchy et peut-être un peu moins... Un petit cliché quand même. Alors là, je ne veux pas entrer dedans. Je trouve que c'est un peu
fin. Je ne sais pas. Moi, je suis rentré dedans et j'ai trouvé ça... particulièrement fort.
On retrouve ce frisson, encore une fois, de l'informatique des débuts, où on est devant cet ordinateur qui est beaucoup plus rigide qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les interfaces de jeu, on est habitué à avoir une machine qui nous aide, qui nous prend par la main. Là, on est face à cet analyseur syntaxique qui est plutôt raide et qui n'est pas facile. D'ailleurs, il manque quelques petites choses. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'inventaire, par exemple. On est habitué normalement à faire I en un inventaire. Parce que ce n'est pas très compliqué, c'est ça, qu'il n'y a pas de difficulté au niveau de l'inventaire. Mais encore une fois, on ressent dans tous les chapitres cette petite fulgurance qu'on trouve la bonne commande. Et ça c'est très précieux. C'est vraiment ce qu'on ressentait. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on trouvait, après des heures de recherche, face à une énigme ou l'ordinateur qui attend une commande. Et quand on la trouve, il se passe un truc en tant que joueur. On a ce déclic. Et là, on le retrouve dans ce jeu. Il y a ce moment où on rentre la bonne commande et hop, on avance. Et ouais, ça fait plaisir quoi, de se dire, ça y est, on avance. Et c'est. Je trouve que ça renoue vraiment avec cette sensation des débuts de l'informatique et du rapport à l'ordinateur qui est très, très spécial.
Franchement, pour Stories Untold, il faut une certaine maîtrise de l'anglais, pas absolument. Il ne faut pas être fluente. Il faut savoir écrire des. C'est 10 euros. C'est 4 chapitres, ça se joue en un peu plus de 4 heures.
Ça dépend
de la vitesse à laquelle on va. Moi, je vous le dis, hein, on est un peu au niveau de Her Story, dans cette manière d'impliquer comme ça, d'être complètement aspiré par une histoire, par une manière de raconter des histoires. Moi, j'ai trouvé ça simplement brillant. Et surtout, c'est super réconfortant. Parce que je me rappelle encore d'une période où on se disait après le marasme des point and click, est-ce que le jeu vidéo va encore pouvoir raconter des histoires? Bah merde, on peut quoi. Enfin, on peut et on peut encore trouver des nouvelles manières encore et encore de raconter des histoires. Trouver plein de manières de raconter des histoires.
Il faut continuer sur l'aventure textuelle. On voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire.
Je sais pas si c'est l'aventure textuelle.
Non, mais l'aventure textuelle mise en scène comme ça, je trouve qu'il y a vraiment là il y a quelque chose qui est fort. C'est-à-dire que c'est pas purement de l'aventure textuelle, c'est de l'aventure textuelle entouré dans un autre univers. Et c'est ça, c'est enchâssé dans un autre...
Magnifique.
Et ça marche bien.
Stories Untold du studio No Code de Glasgow et édité par Devolver Digital. Et on termine avec un petit retour. En 1976, rappelez-vous, en 1976, il y avait l'arrivée des cartouches. Notamment, il y avait la Fairchild qui l'avait déjà fait avant.
Mais c'est vraiment
l'arrivée massive des cartouches avec l'Atari VCS 2600 qui a quand même laissé une certaine marque dans l'histoire des jeux vidéo, notamment qui a failli planter les jeux vidéo, tout simplement, avec le crack de 1983. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de redécouvrir une centaine de jeux. Petite bande-annonce. Alors oui, pour ceux qui nous écoutent et qui nous ne voient pas, cette bande-annonce n'avait strictement aucun intérêt. Et je précise pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent aussi, que les images étaient issues d'une bande-annonce d'un truc sur PC qui s'appelait Atari Volt, qui était aussi une compilation de jeux d'Atari 2600. Oui, c'est pas la même, mais en même temps, c'est les mêmes jeux. Donc, on s'en fout. Voilà. Parce que c'est les jeux Atari, c'est une centaine de jeux Atari. Atari Flashback Classics, volume 1 et 2. Qui permettent de revivre cette époque de jeux qui sont pour la plupart aujourd'hui injouables dans tous les sens du terme. Non, il n'est pas d'accord, Joël, elle n'était pas d'accord.
Alors bon.
Ah bah, y a l'épreuve du temps, tous les jeux ne sont pas égaux face à l'épreuve du temps, on va en parler. Bon.
Alors quand il y a flashback, moi à chaque fois, quand il y a le mot flashback, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à imagination, flashback.
C'est le fond sonore.
Voilà, c'est ça, donc je pense à ça, c'est très bien, donc ça tombe bien. Et ça tombe bien, donc on repart dans les années, fin des années 70, début des années 80. Alors est-ce que c'est un musée? Est-ce que c'est ces deux titres? Donc est-ce que c'est un musée? Est-ce que c'est une orgie rétro? Qu'est-ce que c'est? Alors moi je me suis mis avec... C'est pas amusé.
On va en parler.
Moi, je trouve que c'est. Moi, je
on va pas en parler des heures non plus.
D'accord. Encore une demi-heure.
Bah, c'est très touchant, en fait, de revenir à tous ces, de revenir un peu dans tous ces, ces jeux qu'on avait. Moi, pour ma part, j'étais jeune aussi. Même jeune en couche culotte aussi à cette époque quand ils sont sortis, notamment Pong 76, qui est présent.
72.
Pong, j'étais même pas né, pas conçu. Bref, il y a plein de choses à voir et on s'aperçoit que toutes les bases du jeu vidéo sont déjà posées.
Il y a beaucoup de choses, ouais.
Par exemple, Lunar Lander. Moi, j'en ai noté quelques-uns, quoi. Lunar Lander. J'avais oublié ce jeu, donc qui consiste un peu à poser un atterrisseur sur la Lune. Ça fait un peu penser, je trouve, à aujourd'hui, on pense à Rosetta, quoi. Rosetta qui va se poser sur
la planète. Je fais juste une précision par rapport à mon lancement. Il n'y a pas que des jeux de l'Atari VCS 2600. C'est la production Atari de cette période-là, avant 1983, grosso modo.
D'ailleurs, ça pique. Hein, quand on a des jeux comme Tempest, qui sont à la fois, je crois, en arcade et en 2600, on voit le gouffre de l'époque. C'est là où c'est intéressant de voir le gouffre entre les bandes d'arcade de l'époque et puis la machine Atari qui était très modeste au niveau de performance.
C'était un des trucs.
Donc j'avais essayé d'autres, j'en ai essayé. Bon, j'ai pas essayé les sons, j'ai pas encore eu le temps d'essayer les sons. Ça va venir. Bah oui, ça prend du temps quand même. Et donc Black Widow,
Oui, très sympathique.
L'araignée. Une araignée qui est sur une toile.
Il était en arcade, je crois.
Il était sorti en 82, donc on a carrément une araignée qui est sur une toile et qui doit shooter plein de choses. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que j'essaie d'autre? Centipède qui n'a rien à voir avec le film d'horreur, mais c'est un peu une espèce de. Quoi? Human Centipede, un peu?
C'est pas mon truc.
C'est pas mon truc, d'accord. Centipède, donc voilà, qui consiste.
C'est tiré sur un verre qui descend.
C'est un Space Invader-like, ça ressemble un peu. Qu'est-ce que j'essaie d'autre? Crystal Castles, d'isométrie. Alors, au départ, on a l'impression de diriger un Mickey en fait en talon rouge. On voit talon rouge, mais rien à voir. C'est un ours. C'est un ours.
C'est
Bentley Bear. Voilà, Bentley Bear. Donc voilà, très bien. Major Havoc. Qui consiste à diriger une espèce d'astronaute dans un dédale. Avec une jauge d'oxygène qui descend. Alors, moi, je pense à Dead Space, parce que voilà, c'est.
Oula, oui.
Je trouve qu'il y a une parenté avec Dead Space, quoi. On remonte aux origines. Il y a une espèce de jauge d'oxygène qui descend, il faut conduire son personnage. Comme ça. Donc, en fait, je trouve qu'il y a plein de jeux auxquels on joue. On se dit, ah, mais tiens, mais ça rappelle ce jeu-ci, ce jeu-là. Ça m'a vraiment.
C'est pas la première compilation qu'on voit comme ça qui a des dizaines de jeux. Alors là, sa particularité, c'est qu'elle arrive sur les consoles actuelles. Donc, moi, j'ai noté quelques petites choses qui la singularise, c'est que je crois qu'on a un filtre visuel, parce que la 2600, quand on la branche sur un écran aujourd'hui, c'est très moche, c'est vraiment très laid. Donc il y a un petit filtre qui rend un petit peu plus propre les visuels, quand même très basiques. Hein. On rappelle l'Atari 2600, on revient vraiment aux bases du jeu de
C'est-à-dire que même pour les adaptations d'arcade arrivées sur Atari 2600, c'était un problème. C'était affreux.
La Tempest, j'en parlais, justement. Dont
la célèbre adaptation de Pac-Man, qui est rendue responsable avec E.T. du crack de 1980.
Qui était très mauvais. Ouais. On a des fonctions online qui ne sont pas encore activées, parce que je crois que la compilation sort fin mars. Donc pour l'instant, on pouvait pas. Mais il y a des leaderboards, comme sur les bornes d'arcade, en fait, pour pouvoir comparer les meilleurs scores mondiaux. Et puis de pouvoir jouer en ligne à certains titres, ça peut être intéressant. Et puis il y a la quantité. Comme tu disais, c'est en deux volumes. Donc on a sur 50-50, ça nous fait quand même 100 jeux. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de jeux réunis autour d'une machine, d'une époque, d'un constructeur. Donc là, c'est intéressant pour ça. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est justement aussi ce rapport à l'arcade, d'avoir des versions arcade de certains et le portage de 1600. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, sur 100 jeux, moi, j'en ai lancé pas mal. Hein. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y en a qui passent plutôt bien l'épreuve du temps. Moi, je trouve que j'ai relancé Outlaw, qui était un des premiers jeux de David Crane, créateur connu, qui marche bien avec les deux cow-boys qui se font face. C'est basique, mais ça marche. Ça marche encore aujourd'hui. Le jeu de course de chevaux, comme ça, où on doit passer les haies, comme ça, en multijoueur. Ça marche. C'est basique, mais ça marche encore aujourd'hui. Et puis, encore une fois, on est quand même sur des jeux, je crois, grosso modo, donc fin 70, on va jusqu'en 90. Parce que l'Atari 2600, c'est une machine qui a une durée de vie exceptionnelle, qui après le crack des années 80 va rester encore sur le marché à un prix très bas, mais qui va continuer à être là, elle va survivre malgré tout. Je crois qu'on la trouve encore en France en 90. Et donc on a aussi, on voit que cette compilation, l'évolution des premières productions de la fin des années 70 qui sont très moches, très basiques, et on arrive sur les derniers jeux, il y a un jeu d'aventure, je ne me rappelle plus de son nom, où on a... Je crois même qu'il y a un système de sauvegarde dans la cartouche. On a une vraie aventure avec un inventaire du personnage, avec les jeux commencent à devenir narratifs. Et rien qu'en 10 ans sur cette machine, on voit une vraie progression là, en une centaine de jeux de décontenu. Alors, est-ce que c'est un musée? Non, oui, parce que pour moi...
Moi, je trouve qu'il y a du volume, il y a beaucoup de choses.
Ce qui est bien, c'est qu'on a les scans des manuels en bonne qualité. C'est intéressant. Mais moi, je trouve qu'il manque quand même un contenu encyclopédique. Il y a des interviews des créateurs qui pourraient être intéressantes. Ouais, je sais qu'il y avait des compilations qui l'ont fait à une époque. Voilà, des petits documents comme ça pour nous rappeler plus l'histoire d'un jeu. Là, je trouve qu'on a des manuels. J'aurais voulu un petit peu plus de choses. On a quelques options sur les jeux qui vont être intéressants sur le online. Et puis, il y a un petit rafraîchissement visuel très léger. J'aurais aimé avoir des contenus encyclopédiques, avoir des petites anecdotes sur chaque jeu. Ça manque un petit peu à ce niveau-là.
Atari, Flashback, Classics, volumes 1 et 2, ça ne va pas tarder à arriver en boîte et un peu moins cher en téléchargement, c'est 20€ par volume, donc 50 jeux par volume. Voilà, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Et la question rituelle hein, à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël ?
Alors je lis un roman qui figurait l'an dernier parmi la liste des des romans qui concourent au Man Booker Prize pour la fiction. Le Man Booker Prize, c'est un prix qui est décerné aux meilleures œuvres de fiction écrites en anglais. Et donc, moi, il m'a intéressé parce qu'il se plonge en fait au 19e siècle. Ça s'appelle The North Water, l'eau du Nord, écrit par un Britannique, Ian Maguire. Et ça m'a intéressé parce qu'il parle d'une aventure à bord d'un baleinier. Il part en 1856 ou 59, au moment où l'huile de baleine commence à être supplantée par une autre énergie, le pétrole qu'on commence à découvrir. Et tout se passe à bord d'un baleinier. On va voir un affrontement entre le médecin qui est à bord et un type, mais vraiment un sale type, un serial killer qui est à bord de ce baleinier. L'histoire est vraiment assez magnifique parce qu'on s'imagine au 19e siècle, la moitié du 19e siècle, comment ça devait être d'aller dans l'océan Arctique pour aller chasser de la baleine. Le livre est dur, ça commence par une scène de meurtre, de viol. Le livre est bien dur, c'est-à-dire le côté très ténébreux des âmes, ça fait un peu contraste justement au côté immaculé du pôle Nord. Et je trouve que c'était assez dur, mais c'était vraiment bien. Je me suis embarqué. The North Water, l'eau du Nord. Voilà. Et j'ai adoré, c'est un thriller, c'est un roman de survivaliste, j'ai trouvé ça génial.
Patrick.
Alors moi, des déconvenues cinématographiques au cinéma cette semaine, j'ai pas eu de chance. Hein. Je suis allé voir deux films qui m'ont déçu. Le premier, c'est Split de Monsieur Night Shyamalan, donc le réalisateur de Sixième Sens, de plein de choses. Alors ce monsieur, c'est simple, c'est pour moi, c'est un film est très bon et un navet et un sur deux en gros. Et là, je suis tombé sur le mauvais. J'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé ce film limite malhonnête. J'ai trouvé que le film, j'avais du mal à tenir. Je vais pas spoiler parce que je veux pas casser les gens qui ne l'ont pas vu, mais je trouve que la fin fait une pirouette qui nous renvoie vers des choses qui ne sont pas dans le film, mais qu'il faut connaître. C'est pour les happy few qui connaissent. Et ça m'a énervé. Je trouve que j'ai jamais vu ça au cinéma. Voilà, ça m'a énervé, j'ai trouvé ça scandaleux. En plus, ce monsieur, il se met tout le temps en scène dans ses films. Moi, ça me sort à chaque fois de l'histoire. Alors, Hitchcock le faisait, mais c'était Hitchcock, et puis Hitchcock, c'était une ombre qui passait dans ses films. Là, ce monsieur, il reste 3-4 minutes à l'écran. J'ai l'impression qu'il a un melon un peu exagéré. Et puis l'autre film, c'est Rock'n'Roll, donc de Guillaume Canet. Pareil, une déconvenue. Pareil, c'est un peu le même problème, c'est qu'on vend un film et finalement c'est pas le film que je trouve à l'écran. C'est-à-dire que la première moitié de Rock'n'Roll est vraiment sympa et elle correspond à ce que j'attendais. Donc la crise de la quarantaine de Guillaume Canet, que j'aime bien, au demeurant, j'aime bien ce qu'il fait en général. Et puis d'un seul coup, à la moitié du film, c'est un autre film qui ça se transforme complètement et là on perd complètement pied et ça part complètement sur autre chose. Dommage, vraiment dommage. Donc deux déceptions. Voilà, je voulais en parler ici. Voilà.
Et moi, c'est sur Netflix. Bon, il y a déjà des séries et il y a des choses bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi sur Netflix, c'est les stand-up américains. Il y a comme ça toute une collection d'artistes de stand-up américains. Et là, j'ai regardé celui de Trevor Noah, qui est par ailleurs présentateur du Late Show de je ne sais plus quel network américain.
Il a remplacé du
terme. Oui, voilà, c'est ça. Et qui est particulièrement excellent en tant que dans ses chroniques sur le Late Show. Et là, il a un stand-up qu'on peut voir sur Netflix et qui est assez réussi, voire très réussi, avec ses capacités. Il joue beaucoup avec les accents anglais et
son livre, il vient de sortir un bouquin en fait en anglais qui se vend mais super bien. C'est un bouquin de ses chroniques, de sa vie. Je rappelais ça.
Il vient d'Afrique du Sud.
Voilà, Trevor Noah. Ouais.
C'est fini pour cette semaine. Merci à tous, merci à tous les deux. On se retrouve. La semaine prochaine, c'est une émission hors série de Silence on joue où on va recevoir Cédric Lagarrigue de Focus. Et donc pour l'actualité jeux vidéo, on se retrouve dans deux semaines. Ciao.